Je le dis tout de suite, vous aurez en vidéo, en milieu de prédication, une vidéo, mais vous n'aurez pas le son. C'est pas grave, c'est juste un instrumental. Mais... Oui, je vais en avoir besoin. Est-ce que le switch a été fait? Willy, tu peux switcher, s'il te plaît, les deux. Voilà. Merci. Qu'est-ce que je vais faire? Les problèmes du son, c'est quand on fait les choses en dernière minute, enfin quand on fait des tests qui auraient pu être faits avant en dernière minute, ça marche pas bien. Donc, voilà. Ça me servira de leçon. Alors je vous propose donc je vous invite à écouter ou à suivre la lecture d'un passage donc de l'évangile de Matthieu au chapitre 26, les versets 6 à 13. Et je vais faire encore une modification avant. Donc vous pouvez chercher dans vos Bibles si vous voulez. Matthieu 26, 6 à 13. J'annonce tout de suite que je ne commenterai qu'une partie du texte. Je laisserai de côté, par exemple, la partie qui concerne la question des pauvres. On a eu l'occasion d'en parler dans des derniers cultes. Donc voilà. Puis même si on n'en avait pas parlé, je ne l'aurais pas commenté non plus. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant « Mais pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. » Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. » Ah, merci. Il y en a qui suivent. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. Ne repliez pas votre Bible si vous l'avez dépliée. Est-ce que vous avez vu dans quel contexte ce récit que je qualifie d'étonnant nous est rapporté? Donc c'est celui d'un complot, c'est celui de jeux de pouvoir, de jeux politico-spirituels, avec des coups bas, avec des actes qui sont faits par derrière, en coulisses. On cherche à se débarrasser de Jésus. Mais le problème, c'est comment faire sans dommage, parce que Jésus, il a quand même un certain succès. Verset 3, donc je lis ce qui est juste avant, la partie encadrée, projetée, c'est le texte que nous avons lu. Les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus, par ruse, pour le faire mourir. Cependant, ils se disaient... Il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeute parmi le peuple. Et le caractère sordide, à la fois sordide et tragique, est accentué par ce qui suit juste après le texte. Alors l'un des douze, celui qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous ? Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Donc ce contexte tragique, en fait, il correspond à la ligne principale du récit. Matthieu nous raconte l'évangile de Matthieu nous raconte la mort de Jésus. Et du coup, je reviens à ce que j'annonçais comme étonnant à mes yeux, ce qui peut étonner dans ce récit à propos du geste de cette femme, ben j'ai envie de dire, c'est le fait justement qu'il soit raconté. Parce que regardez le texte tel qu'il se présente, si on enlève le texte que j'entreprends de commenter, ben, son absence ne changerait pas grand-chose à l'histoire. Le texte tient très bien la route sans lui. Les chefs des prêtres et les responsables décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse. Ils se disaient « il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeute parmi le peuple ». Alors l'un des douze, celui qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander « si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous ?» Donc du coup, le fait que dans ce contexte qui est tragique, qui est sordide, l'épisode qu'on pourrait considérer comme pas vraiment indispensable au fond, tranche, apparaît avec ressort, avec d'autant plus d'acuité, il me semble. Déjà, il y a la bonté au sein des magouilles. Et puis la dernière phrase offre un crescendo inattendu, il y a une espèce de point d'orgue qu'on n'attend pas, on aurait pu raconter l'histoire sans cette dernière phrase, presque. Si tant est qu'on se résolve à la raconter, bon, on la raconte quand même, mais la dernière phrase, on ne l'attend pas. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce que cette femme vient de faire. Et je trouve ça surprenant, déjà que ce soit raconté, parce que ça apparaît comme le récit d'un geste presque anodin à l'échelle de l'humanité, à l'échelle des actualités que vous regardiez hier soir ou que vous écoutiez ce matin à la radio, je ne sais pas. Une femme qui verse un parfum de valeur sur la tête d'un homme. Bon, d'accord. Le geste est coûteux, elle a versé parfum de valeur, bon, d'accord. Et puis, d'accord, le geste est touchant. Oui, c'est un beau geste. Et quand les disciples s'étonnent que de l'argent soit dilapidé, on pourra s'étonner aussi, les disciples s'étonnent de ça, que l'argent soit dilapidé. Mais nous, on pourrait s'étonner aujourd'hui en disant, mais surtout quand on est conscient de la rareté des supports d'écriture à l'époque, on pourrait s'étonner que le récit soit raconté, même si c'est un beau geste. Parce qu'à l'époque, le papier n'est pas à 3,50 € chez Bureau Vallée. Une ramette de 500 feuilles, vous pouvez écrire 500 feuilles, c'est énorme. À l'époque, c'est pas ça. Il n'y a pas de papier, déjà, à l'époque. Il y a du papyrus, et le papyrus, c'est pas une denrée qu'on va acheter juste comme ça. Tiens, je vais aller acheter un papyrus aujourd'hui. Non, le salaire d'un ouvrier, ça le fait pas, quoi. Et il faut savoir écrire. À l'époque, il n'y a pas Internet. On ne peut pas chatter, simplement écrire 2-3 bêtises ou 2-3 choses très sérieuses. Sur Internet, ça ne coûte rien, on fait ça, et puis on le met dessus. Les supports d'écriture sont rares et ils sont chers. Alors pourquoi choisir de raconter ça, même si c'est un geste touchant ? Surtout quand ça ne rajoute pas grand-chose à l'histoire principale. Et puis, autre élément sur lequel j'attire votre attention, c'est que c'est raconté aussi dans un monde où les femmes sont peu mises en valeur, ordinairement. On raconte plutôt les exploits des hommes. La société met en valeur les hommes. Et qu'il est bizarre, ce texte biblique, j'ai envie de dire, de nous raconter cette histoire de bonne femme. Excusez-moi que les dames m'excusent, que les bonnes femmes, que les femmes bonnes m'excusent ce matin. Et entre parenthèses, ça pourra faire réfléchir à ceux qui parlent de l'évangile comme quelque chose de finalement à tonalité machiste. Alors il y a des textes qui en effet peuvent poser question. Mais voilà ce qu'on nous raconte aussi dans l'évangile. Donc le récit s'attarde sur ce geste, il le relate, ce geste insignifiant, ce non-événement. Et on a envie de dire, non mais c'est nul, quoi. C'est même moins intéressant que regarder une vidéo qu'on poste sur YouTube. Et Dieu sait combien ce qui est posté n'a absolument aucun intérêt. Enfin, je parle à mes yeux. Hein, après. Qu'est-ce qu'on regarde ? Un gamin qui se prend un gadin en tombant de son vélo. 4977 vues, yes. Un chat qui joue avec une pelote de laine. 1 477 000 vues. Ouais, c'est tellement beau. Et j'ai envie de dire, ok, ça, Excusez-moi pour ceux qui aiment les chats et les enfants qui tombent de vélo. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce que ça apporte? Non, ça apporte du sourire. Et là, dans le récit, si je puis dire, c'est pire encore. Une femme qui répand du parfum sur un homme. Je crois, je ne sais même pas si on aurait eu le temps de sortir le portable pour le prendre avant de le mettre sur YouTube. Et même si on l'avait fait, je suis sûr que le chat ou la pelote de laine paraîtrait plus intéressant. Et pourtant, vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée. Et la phrase fait penser à d'autres textes bibliques, me fait penser à d'autres textes bibliques. Vraiment, je vous l'assure, c'est la même chose. Amen, amen. Voilà, c'est le grec. Amen, amen. Je vous l'assure, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et dans la bouche du Créateur du monde, parce que c'est bien de lui qu'il s'agit, tout à coup, cet acte apparemment insignifiant, anodin, banal, touchant, mais bon, c'est banal, prend un relief inattendu et saisissant. Et vous remarquerez que dans le récit, c'est bien le seul qui voit les choses comme ça, qui valorise le geste. Les disciples, les témoins de la scène, eux, ils sont plutôt indignés. Non, mais franchement, on aurait pu garder le pognon pour autre chose, quoi. Ce récit me renvoie à moi-même que je suis, j'ai envie d'élargir, que nous sommes probablement de bien piètres juges de nos actes ou des actes que nous posons. Ce récit me renvoie à la vraie valeur de nos actes, ce que nous sommes en mesure de percevoir de la vraie épaisseur de nos actes, et combien j'en ai peu conscience, combien je crois que nous en avons peu conscience. S'il y a quelqu'un qui nous ressemble dans le récit, qui me ressemble, c'est les disciples. Je ne mets pas dans la peau de Jésus en disant tout de suite, ouais, c'est trop beau. Non, c'est, franchement, un peu de gaspillage, quoi. Et du coup, quand on est sur ce terrain-là, je crois que le récit peut renvoyer dos à dos, deux perspectives, deux tentations. J'appelle deux tentations. D'un côté, ce que j'appellerais la tentation nombriliste. L'idée que ce que nous faisons, que ce que nous disons, que ce que nous projetons, les projets que nous formons, c'est super important, quoi. Regardez de quelle façon on vous parle des produits dont on vous fait la pub. Regardez les jaquettes des DVD. Allez en croire, ce film est une merveille. Sombre et sauvage, bouleversant, véritable hommage. Un grand film, c'est fabuleux, c'est génial. Je vais prendre l'exemple, je le prends assez souvent de la prédication, puisque je prêche. Ça sera le prédicateur qui est convaincu que ce qu'il dit est super important, qui se raconte à lui-même, qui parle bien. Je repense à... J'étais dans une église en région parisienne, où là, tout d'un coup, ça fait un truc bizarre au niveau du micro. Oui, quand je prêche, il faut que ce soit nickel, quoi. C'était... Oh, ok. Mais de façon générale... Ça touche tous les espaces où je me comporte, où nous nous comportons, comme si tout le monde devait finalement nous écouter, approuver, applaudir quand on parle, suivre nos conseils. Moi, je vois clair, moi, j'agis bien. Moi, je... Si on m'avait écouté, on n'en serait pas là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si tout le monde faisait comme moi, ça irait tellement mieux dans le monde. On ne le dit pas comme ça. Dans la... Quand vous êtes sur la route, vous regardez comme ils conduisent, s'ils conduisaient comme moi. Franchement, il n'y aurait jamais d'accident, c'est clair. Et dans le langage chrétien, ce sera ben, Dieu est de mon côté. Ou en plus modeste, je suis du côté de Dieu. Voilà, là au moins ça passe, c'est encore politiquement correct. Je suis en mesure d'y voir clair, et toi, tu as eu tort de dépenser ton pognon comme tu l'as fait. Tu as eu tort de donner le parfum comme tu l'as fait. Tentation nombriliste. Et de l'autre, et je m'arrête surtout à l'autre, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut nous affecter de manière plus forte. On est quand même au milieu chrétien, enfin, ordinairement, en disant, oui, mais l'orgueil, ça existe, et on est tous... Donc On se garde plus facilement de la première tentation que de la deuxième, il me semble. C'est peut-être la tentation qui marque le mieux notre société contemporaine, qui est en rejet du religieux, et ce que j'appellerais la tentation nihiliste, du latin nihil, qui veut dire rien. Ça ne veut pas rien dire, ça veut dire rien. Et je dis autrement, c'est de penser que rien n'a de sens de ce que nous faisons. Que nos gestes, que nos actes, que nos paroles ne valent juste rien. Et au point d'en désespérer, au point de désespérer de notre quotidien, au point de désespérer de notre ordinaire. Et un des exemples les plus éloquents que je connaisse de ce regard sur la vie, il se donne à voir dans les produits culturels. Alors j'ai pas vu tous les films en question, mais dans beaucoup de donc je vais pas dire dans tous, mais dans le produit culturel qui est le cinéma des frères Cohen. Ethan et puis j'ai oublié l'autre. Et je vous propose de regarder ensemble donc un petit extrait du film Miller's Crossing. Vous voyez d'ailleurs c'est marqué un polar jubilatoire. Alors je vais pas vous recommander forcément le film, notamment parce qu'il y a des moments ultra violents. Même si personnellement c'est pas ça qui me dérange le plus dans le film, c'est sa philosophie que je trouve la plus destructrice. Pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne le verront pas, je vous dis tout de suite que je me rappelle plus du détail de l'histoire. Je l'ai regardé il y a longtemps. Sinon que c'est un film de gangster. Et grosso modo, si ma mémoire est bonne et si le résumé de Wikipédia est exact, le parrain local a des difficultés avec son entourage. Pas des difficultés, plutôt musclées. C'est le parrain, c'est pas le parrain des enfants, c'est la mafia, on est d'accord. Et il demande à son bras droit d'intervenir. Et si ma mémoire est bonne, le bras droit en question n'a pas envie d'intervenir, parce qu'il dit là, le parrain, il sent pas le truc. Il dit non, il va... À la fin du film, tout est résolu, le bras droit est félicité, sauf que ça s'est résolu d'une manière complètement indépendante de sa volonté. Je crois que tous les gestes qu'il a posés se sont retournés dans un autre sens, et puis ceux qu'il n'a pas posés, bien, on fait que. Donc des coups de hasard, des choses qui tournent de manière inattendue, les événements se succèdent et on a un peu l'impression de personnages ballottés, sans savoir pourquoi. Et je vais vous passer le générique, qui me semble constituer un excellent résumé du film. Voilà, comme ça vous ne serez pas obligé de le voir, surtout dans la deuxième partie. En fait, vous verrez, il y a deux plans. Il y a un plan vers le haut, et puis ensuite vous verrez l'objet qui se déplace. Et en fait, c'est comme si la caméra était associée à l'objet qui se déplaçait. Donc l'objet regarde vers le haut, et ensuite on voit l'objet se déplacer. Si, bien sûr, la vidéo marche, vous n'aurez pas le son. Où est la souris? Je l'ai perdue en route. Elle est là. Donc, ça va ici. Oui, comment je fais maintenant pour avoir le plein écran? Il faut que je vois ici. Wow, c'est un peu compliqué. Ouais, je vais mettre déjà la lecture. Sauf que je vois pas où est le truc de lecture. C'est où? C'est ici? Non, c'est pas là. Excusez-moi, je vais le mettre en lecture là où je vois. Ah, mais je peux le mettre ici. Oui. Où est-ce que quelqu'un voit lecture, là? Tout en bas à gauche. Ah oui, mais c'est faut que j'aille ici. Comment je fais? C'est là. Ça va venir. Normalement, j'espère être là. J'espère faire ça. Ah, il arrive, je crois. Voilà. Alors, vous imaginez une musique un peu mélancolique. C'était un instrument avant. Là, on souffle sur quelque chose et ça fait des jolis sons. Mais bon, remarquez, voilà le résumé. C'est pas exactement ce que je voulais vous montrer, mais on va le faire quand même. C'est là. On peut laisser la lumière comme ça. Sans le son, c'est un peu bizarre, mais... Ça ne dure pas plus de 6 minutes, rassurez-vous. J'ose pas trop avancer parce que j'ai peur d'aller plus loin. Donc. Changement de plan. Voilà le résumé du film. C'est un peu comme ça que j'aurais envie de le résumer. Nous sommes des chapeaux. Emporté par le vent. Un coup à gauche, un coup à droite, le sentiment de l'inutile, de l'absurde, du gratuit, du dérisoire. Et si vous connaissez un peu le cinéma des frères Cohen, alors il y a longtemps que j'ai pas regardé en cinéma, mais je trouve dans les films que j'ai vus, je trouve que les deux réalisateurs excellent à faire ressentir ce tragique. Ce dérisoire. Ils le font le plus souvent d'ailleurs en faisant rire. Là, c'est sombre, hein. C'est une histoire assez sombre. Mais ils le font le plus souvent en faisant rire de manière assez féroce. Et dans un autre de leurs films, The Big Lebowski, il y a cette scène, par exemple, hein, est-ce qu'elle est drôle ou est-ce qu'elle est terrible, de cet homme qui porte l'urne contenant les cendres d'un de ses proches, déjà vous voyez la façon de filmer, en haut d'une falaise. Donc il a cette urne au haut de la falaise et il verse les cendres de son proche. Et le vent lui renvoie les cendres en plein visage. C'est ridicule, c'est juste absurde. J'entends chez eux, rions, nous disent les frères Cohen. Et pour reprendre les textes bibliques, rions, mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Consommons, dit notre société. Achetons des DVD des frères Cohen. Car demain, nous mourrons. Ne réfléchis pas, ne t'arrête pas. Rien. Rien n'a de sens. Et je me dis combien de nos contemporains jonglent plus ou moins consciemment avec ce sens de l'absurde. Combien d'entre nous, chrétiens y compris, luttons-nous avec ce sentiment de l'absurde? Ce sentiment de ne pas voir la valeur de ce qu'ils font. Le sentiment que ce qu'ils font n'a pas d'envergure. Que c'est juste nul, quoi, finalement. Que ça n'intéresse personne. Et j'ai envie de vous le faire sentir en vous renvoyant à vos rêves. De quoi rêvez-vous? Les rêves qui peuvent être les rêves de faire quelque chose qui sera reconnu, les rêves d'être admiré. Ça se voit aussi, je crois, dans nos souffrances. A contrario, le désespoir qu'on peut ressentir à penser que personne ne prend la mesure de ce qu'on a donné, de ce que nous avons supporté, de ce que nous avons souffert. S'il n'y a personne pour le voir, mais c'est plombant. Ça n'a servi à rien. La révolte, parfois, à avoir conscience que tout ce que nous avons fait sans que quelqu'un nous ait juste exprimé un merci, une parole de reconnaissance. Et c'est vrai de beaucoup de choses, parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on fait, en particulier, qui ne se voient pas. Et pourtant, on a investi énormément dedans. On nous en voudra, par exemple, parce qu'on s'est mis en colère à un moment donné. Mais personne ne viendra nous féliciter parce qu'on s'est retenu pendant des mois et des mois, qu'on n'a rien dit, juste, on n'a juste rien dit. Et puis à un moment donné, c'est sorti, parce qu'on ne pouvait pas faire autre là, c'était... on n'arrivait juste plus, mais personne ne vient nous féliciter pour tout ce qu'on a porté entre-temps, qu'on n'a pas dit. Vous rentrez chez vous tout à l'heure, vous grillez le feu rouge. La caméra vous remarque, et vous recevez un gentil courrier la semaine d'après. C'est fantastique, n'est-ce pas? Vous passez au feu vert. Vous ne recevez pas de courrier, hein? Bravo! Vous avez contribué à la vie collective de manière harmonieuse, etc. Merci, merci, continuez comme ça. Zéro. Personne ne vous dit rien. Pas de relief, une vie ordinaire. À quoi ça sert? Et en milieu chrétien, je le dis souvent, mais je ne vais pas trop m'attarder, nous aimerions faire quelque chose pour Dieu, quelque chose où on nous voit, disons où quelqu'un nous voit au moins. Et quand se succèdent justement des gestes ordinaires, dont nous ne voyons pas la portée, bien, dont nous avons l'impression qu'ils n'ont pas de portée, eh bien on peut être là, on peut être découragé. Et je repose la même question, qui est-ce que nous admirons, même en milieu chrétien? Qui sont ceux qui sont mis sur le devant de la scène Est-ce que c'est la mère de famille qui élève ses enfants? Ou bien, évidemment, la concurrence est difficile. Ou bien tel ou tel groupe de louanges qui draine des foules. Ah, eux, au moins, ils font des choses pour le Seigneur. Moi, tous les matins, je prends le train à la Verpillière à 8h27. Je bosse à Lyon toute la journée. Je rentre avec le train à 19h56 le soir. J'essaie d'aider un petit peu les enfants à faire leurs devoirs. Et demain, rebelote, 8h27. C'est parti pour un tour. Et d'ailleurs, je sais même pas chanter. Même si le groupe de louanges, de toute façon, ça va juste pas le faire. Alors, on peut admirer ceux qui vont dans la rue. J'avais écrit avant ça. Qui prient pour les gens, eux, ils sont admirables. C'est bien, je suis reconnaissant pour ceux qui le font. On peut admirer telle personne qui a un témoignage choc. J'aimerais être comme elle. J'aimerais être comme, que nous soyons comme telle église qui connaît une croissance extraordinaire. Eux, au moins, ils font des choses pour le Seigneur. Et moi, je suis les fesses du petit dernier. Je mets un peu de parfum, d'eau de Cologne sur la tête de mes enfants. Je passe un coup de téléphone, peut-être à un frère ou une sœur dont je n'ai pas de nouvelles, et puis personne ne le saura. Et parfois lui non plus, parce qu'il n'est pas là. Donc. J'ai des rhumatismes. Ça ne sert à rien pour Dieu. Mais rien du tout. Je prie, mais bon, j'ai l'impression que ça ne va pas plus loin que le plafond, et même ce plafond-là est un peu haut. Le plafond de ma chambre, il est plus bas. Ben, c'est nul, quoi. Donc, tout ça pour revenir à notre texte au départ. Cette histoire insignifiante, eh bien, en tout cas, elle me parle, et elle me dit, tu ne sais pas la portée de tes actes. Tu ne sais pas comment Dieu les voit. Et à un moment où il les voit et où il les apprécie, voilà ce qu'il peut dire. On rencontrera partout ce que cette femme vient de faire. Je me suis demandé d'ailleurs si la femme avait conscience de ce qu'elle faisait. Est-ce qu'elle avait conscience de... que Jésus allait mourir bientôt, par exemple. Je ne sais pas, le texte ne le dit pas. Est-ce qu'elle était consciente de l'importance de son... Si on lui avait dit est-ce qu'elle a pu se dire, je vais faire ça, comme ça on parlera de moi partout dans le monde entier? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle s'imaginait un seul instant que ça pourrait être mis en valeur comme ça? Rien ne permet de le dire. Je ne sais pas pour elle, mais j'ai envie de dire pour nous, qu'est-ce que nous savons de la véritable valeur, de la véritable ampleur de nos gestes, de leur effet. De leur effet chez les autres, de leur effet dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui est signifiant et qu'est-ce qui est insignifiant? J'ai envie de dire, Seigneur, délivre-nous de nos représentations, de nos imaginations à penser et voir clair. Et délivre-nous de l'influence destructrice de notre société. Dépressive. Et pour ma part, en tout cas, je crains d'être bien souvent de ceux qui pensent savoir et qui disent il aurait mieux valu qu'elle utilise le pognon autrement, quand même, hein, franchement. Elle est pauvre, quand même. Pour qui se prennent-ils ceux qui nous disent ça, c'est signifiant, et ça, ça n'est pas du tout? Un seul a la capacité et l'autorité de le faire. Et quand il le fait, c'est tellement décalé par rapport à nous qu'on peut être surpris. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de repère, je ne voudrais pas dire du coup, je ne sais plus trop ce qu'il faut faire, parce que de toute façon, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc oui, le Seigneur nous donne des pistes, aimez-vous les uns les autres, etc. Enfin, etc. Excusez-moi, c'est parce que je ne vais pas lister exhaustivement. Il y a des invitations qui nous sont données, nous savons dans quel sens aller. Donc cette histoire insignifiante, eh bien, elle nous occupe encore ce matin. Et quand nous serons morts, elle continuera à être racontée, elle continuera à apparaître dans les pages de la Bible, elle continuera à être commentée, à être méditée. Quelle fécondité pour un geste apparemment insignifiant. Et je crois que c'est bienfaisant si nous voulons l'entendre, parce que outre le fait que ça peut détrôner certaines de nos idoles, les idoles que nous valorisons, qui nous mobilisent, ça peut nous faire toucher du doigt, et c'est mon espoir, que plusieurs des gestes insignifiants, des gestes banals, des gestes ordinaires que nous faisons, juste être attentif à quelqu'un, par exemple, lui exprimer un peu de chaleur, par exemple, ont peut-être un tout autre relief que celui que nous sommes en mesure de percevoir. Et souvent, d'ailleurs, il se passe quand on peut exprimer de l'attention à l'égard de quelqu'un, la personne ne nous le dit pas forcément, et du coup, on ne sait pas. On est très souvent dans cette posture-là. Mais peut-être... Voilà. mais en fait il se passe peut-être davantage que ce qu'on perçoit. Et j'ai envie de dire, pour conclure, que ce récit me semble bien du coup une leçon d'évangile. Parce que qu'est-ce que c'est que le message de l'évangile ? Sinon de faire part d'un fait qui est apparemment insignifiant, un fait qui ne ferait pas le buzz aujourd'hui, un fait qu'on n'aurait certainement pas filmé à l'époque, tant il paraissait ordinaire, le fait qu'on mette à mort un condamné sur une croix. Il y en a eu des milliers de condamnés à mort, donc on aurait pu en filmer un peut-être pour sa, parce qu'on est dans sa, dans son, dans ses archives, mais est-ce que lui, on l'aurait filmé ? C'était un parmi d'autres. Quelle importance, après tout, c'était un fait divers, parmi d'autres. Et puis l'histoire continue. C'est ça l'évangile. Et l'évangile nous fait pourtant entendre, encore aujourd'hui, que la vie de chacun d'entre nous, notre avenir éternel, il se joue pourtant là. Que tout ce qui est essentiel se joue, se décide par rapport à ce fait divers. Et ça sera deux positionnements. D'un côté, ce sera l'indifférence ou le mépris. Comme on peut recevoir le témoignage parfois. On s'en fout, excusez-moi le langage. On s'en fout. Ça vaut même pas la peine qu'on s'y arrête. Tandis que la hausse du prix de l'essence, ça, il faut se mobiliser. Hein. Comme disait, c'est un petit geste, mais c'est un grand pas, comme me disait un des gilets jaunes hier. J'entends bien, je ne vais pas raconter tout ça. Ça, c'est la première posture. L'autre posture, c'est celle qui parvient à se laisser interpeller, à entendre qu'au travers de cet acte, Dieu nous disait son amour pour les rebelles que nous sommes et nous propose la communion avec lui. Et c'est bien comme ça que les auteurs du Nouveau Testament l'ont compris. L'apôtre Jean exprime ce qui est en jeu de manière très, très provocante. Enfin, ce n'est pas un truc qui laisse indifférent. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce n'est pas très politiquement correct, mais c'est ce qui nous est dit. Donc ceux parmi nous qui seraient en quête, eh bien je vous invite vraiment, instamment, à découvrir l'Évangile. Et à vous orienter, à vous positionner, à le faire en votre âme et conscience. Parce que c'est la vie, c'est de vie dont il s'agit. Et ceux parmi nous qui ont accueilli, qui nous sommes soumis à l'Évangile, qui nous efforçons de le faire, mais qui ne voyaient pas la valeur de vos actes, entendez ce renversement de valeur auquel l'Évangile nous rend sensibles. Ce geste-là sera raconté partout où la bonne nouvelle sera annoncée. Donc j'ai envie de vous le dire, de vous encourager. Continuons à nous engager à son service, même si personne ne le voit peut-être dans l'Église. Dieu, savons-nous, se souviendra même du verre d'eau que nous aurons donné en son nom. Je vous invite à faire silence. Vous serez d'accord pour qu'on chante ensemble le chant du début à bas père, parce que ça peut faire écho justement. Dire ensemble ce que l'émerveillement à être à bénéficier de l'amour de Dieu.